du Christ qui vient affirmer la parole divine. Donc là, on est dans le moment de l'affirmation. On parlera de thèse. L'antithèse, le moment de la négation, le moment de l'aliénation, c'est la crucifixion, la mort du Christ. D'une certaine manière, comme le diront certains théologiens protestants, c'est la mort de Dieu. Le Christ étant, du point de vue de la théologie chrétienne, Dieu incarné, Dieu fait homme, donc c'est Dieu qui meurt, pour expérimenter l'état de créature humaine. Hegel dira même que Dieu, parce qu'il est amour, doit se compromettre dans le réel. Il ne peut pas être un Dieu purement abstrait. Il doit expérimenter en quelque sorte la condition humaine dans tout ce qu'elle a de plus difficile, la souffrance, l'humiliation, la mort, etc. Donc ça, c'est la crucifixion. Et le moment de la synthèse, de la négation de la négation, c'est la réconciliation, la résurrection. En termes chrétiens, en termes hegeliens, Hegel préférera parler de réconciliation.
Franck américain.
Réconciliation entre l'esprit et la nature, entre l'homme et Dieu, entre le sujet et l'objet, entre tout ce qui a besoin d'être réconcilié. Donc, la fin de l'histoire, on a quand même une piste intéressante. La fin de l'histoire, qu'est-ce que c'est pour Hegel? Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas la fin des temps. Donc ça, c'est une lecture apocalyptique. Hegel n'est pas un philosophe de l'apocalypse, encore qu'il faudrait bien s'entendre par le terme apocalypse. En grec, ça veut dire la révélation. Alors, effectivement, la fin de l'histoire, c'est le moment où le philosophe, la philosophie, mais incarnée par un philosophe temporel, lui-même d'ailleurs, et puis Hegel, effectivement, on ne peut pas lui reprocher de faire de la fausse modestie, il l'assume, la considération, il est la considération pensante des dieux, il est le philosophe de la fin de l'histoire, celui qui vient en quelque sorte rassembler les autres philosophies, qui sont des vérités partielles, et c'est vrai qu'il y a un travail monumental. Hegel ne comptait pas ses heures de travail, c'est quelqu'un qui n'arrêtait pas, quoi, parce que son œuvre est absolument monumentale. Et donc il serait la considération pensante de l'histoire, le philosophe, le penseur, qui va expliquer en quelque sorte, c'est un peu une métaphore que j'utilise, mais qui expliquerait en quelque sorte à Dieu qui il est. Le Dieu de Hegel est un Dieu qui ne se connaît pas, qui a besoin d'une forme de, je vais lâcher le mot, allez, de psychanalyse en quelque sorte, historique, entre guillemets, c'est-à-dire que effectivement, qu'on lui explique en quelque sorte qui il est, quoi. Et ce moment-là, c'est la fin de l'histoire, c'est quand l'histoire arrive finalement à l'émancipation du penseur, quand finalement la liberté et l'égalité sont réalisées dans un état rationnel, qui devait être la Prusse de l'époque de Hegel, mais il y avait beaucoup de corruption, et d'une certaine manière, Napoléon, c'est celui qui va rectifier, qui va renouveler finalement cette Prusse de l'époque hegelienne, qui est quand même un peu, le système politique prussien est un peu décadent. Donc il faut un coup de pied dans la fourmilière, c'est mon expression, c'est Napoléon qui vient l'apporter, puisque Hegel croit vraiment aussi dans la prédestination, enfin il croit dans ce qu'il appelle des peuples élus. Il y a cette notion de l'élection qui est importante chez Hegel, pour un tas de raisons, effectivement, à un moment donné de l'histoire, certains peuples vont être élus, mais ils vont perdre leur élection. Par exemple, Hegel ne nie pas qu'à un moment donné, le peuple d'Israël sera le peuple élu, mais ça ne sera plus le cas, le nouveau peuple élu, d'une manière générale, c'est le peuple chrétien, et c'est spécialement l'Allemagne, donc le monde germanique, mais avec l'appui quand même, puisque Hegel constate que ce monde germanique montre des signes de décadence, avec l'appui de la France. Au moment de 1806, Hegel n'est peut-être pas loin de penser que le nouveau peuple élu, c'est la France, mais qu'il a besoin de l'Allemagne, il a besoin de la sagesse, disons la politique française, en quelque sorte, l'action française, sans mauvais jeu de mots, mais parce que c'est la puissance montante de l'époque, grâce à Napoléon, quoi, qui est le grand homme pour Hegel, a besoin d'être éclairé par la philosophie. D'une certaine manière, le rêve secret de Hegel aurait été, je pense, de pouvoir rencontrer Napoléon et de pouvoir lui expliquer, tenter de lui expliquer sa journée. Lui expliquer parce que Napoléon était quand même un homme de grande culture. Je ne sais pas s'il aurait eu toutes les subtilités de la vieille hegelienne, mais en tout cas, peut-être que cette rencontre, si elle avait pu se faire, elle aurait été très fructueuse. En tout cas, Hegel en aurait certainement été absolument ravi. Donc la fin de l'histoire, je vais quand même aller au-delà un peu de Hegel, parler des défenseurs d'aujourd'hui. La fin de l'histoire, c'est ce moment où le savoir absolu est réalisé à travers la philosophie, et c'est en quelque sorte plutôt la réalisation de l'histoire, la réalisation du but de l'histoire. Encore une fois, Hegel n'est pas naïf, il sait très bien qu'il y aura encore des choses qui vont se passer, Encore que, je pense qu'il va y avoir une grande déception, et c'est Papayanou, Kostas Papayanou, un grand traducteur de Hegel, qui, à mon avis, n'a pas tout à fait tort. C'est vrai que lors de la défaite napoléonienne, avec la Restauration, Hegel est donc toujours en vie, hein, mais plus pour très longtemps, puisqu'il meurt en 31. Donc il assiste quand même, il est témoin quand même de la décadence de l'Empire napoléonien. Ça lui met un coup moral, quoi, c'est évident. Et donc, il relativise peut-être un peu sa conception très optimiste, effectivement, de l'histoire, de la fin de l'histoire, qui s'inscrit dans une vision plutôt linéaire de l'histoire. Et d'après Kostas Papayanou, vers la fin de sa vie, Hegel aurait reconsidéré un peu les choses en évoquant éventuellement un aspect cyclique dans l'histoire aussi. Parce que, donc, d'une certaine manière, il n'est pas sûr que Hegel ait cru vraiment à la fin de l'histoire, telle qu'il l'a énoncé en 1806, en pleine période d'euphorie, d'optimisme. Il n'est pas sûr qu'il l'ait maintenu jusqu'au bout. En tout cas, comme c'est souvent le cas, les Hegeliens sont plus Hegeliens que Hegel, hein, c'est toujours le cas des grands penseurs, que ce soit d'ailleurs les Hegeliens de gauche, les marxistes ou les Hegeliens de droite. Puis les marxistes, parce que ce sont les Hegeliens de gauche les plus conséquents, il y en a d'autres, puisque bon, malgré tout, sur la base d'une d'une repensée de la philosophie hegelienne, Marx dira qu'il a remis Hegel sur les pieds. Hegel marche sur la tête, puisqu'il reproche à Hegel son idéalisme. Hegel sans l'idéalisme, c'est-à-dire sans l'idée de Dieu, sans l'idée d'un concept, parce que Hegel effectivement s'inscrit quand même dans une pensée chrétienne, l'idée de fin de l'histoire, c'est une transposition laïque en quelque sorte de l'idée du royaume des cieux sur la terre. Que le jeune Hegel, qui écrit des ouvrages sur Jésus, la vie de Jésus de Hegel notamment, il assume cette notion du royaume des cieux. Il espère effectivement l'établissement d'un royaume des cieux sur la terre. Ça ne veut pas dire un monde d'euphorie générale. C'est pas tout ça, mais un monde où la liberté humaine est réellement réalisée, où les droits du citoyen sont pleinement épanouis, où l'homme a le temps de philosopher, où effectivement un monde quand même où on vit mieux et où on a vraiment le temps, pas seulement le temps, mais aussi la qualité d'esprit pour philosopher. Un monde donc, comme l'annonçait déjà Kant, un monde de la majorité.